Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Votre enfant a eu des mauvaises notes, des mauvaises cotes à l'école au premier trimestre de l'année scolaire. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ces échecs. On peut citer l'inadaptation, la négligence et bien d'autres raisons. Certains parents se sont fâchés, ont puni les enfants et les ont privés de certains droits, les ont menacés. Et cependant, on peut les aider à mieux travailler lors du prochain trimestre. Odon Moulanda est expert en éducation, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, si l'enfant a échoué, est-ce qu'il faut les punir, il faut les priver de certains droits et on s'arrête là?
Non, on ne peut pas s'arrêter là-bas. Merci d'abord, meilleurs voeux à tous les auditeurs. Je pense que c'est une question qui est capitale. Il faudra qu'on y pense d'abord de manière un peu plus calme pour voir comment décanter la situation. Mmh. Aujourd'hui, l'enfant qui fait l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est un enfant qui se retrouve, par exemple, dans une classe supérieure. Nous sommes au primaire, puisque vous parlez du premier trimestre. Mmh. Donc, il y a ceux qui étaient en première l'année passée, se retrouvent en deuxième aujourd'hui, et ainsi de suite. Il y a ceux qui étaient même en dehors du circuit, qui sont entrés en première. Mmh. Bon, ceux de première confrontent pour la première fois les épreuves, c'est-à-dire cet examen-là du premier trimestre. Mmh. Et les autres qui sont dans des classes supérieures à celles de l'année passée affrontent une autre réalité. Alors, on ne peut pas directement sanctionner ou essayer de sécréter l'élève. Il faudra voir maintenant quelles sont les causes qui sont liées à ces phénomènes-là. C'est ainsi que nous pouvons même résumer ces causes à plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur endogène. Mmh. Ce sont des facteurs liés à l'enfant lui-même. Est-ce que l'enfant s'adapte mieux? Est-ce que l'enfant est régulier au cours? Parce que le problème de régularité, le problème de ponctualité, le problème d'assiduité sont des facteurs qui peuvent faire que si l'un des facteurs n'est pas mis en exergue ou bien n'est pas appliqué comme il se doit, l'enfant qui ne vient pas tous les jours au cours ne peut pas réussir. Donc l'enfant qui ne comprend pas réellement la matière, qui ne s'adapte pas aux leçons du maître, cet enfant-là ne peut pas réussir. À côté des facteurs endogènes, nous avons aussi des facteurs exogènes. Donc des facteurs qui ne dépendent pas de l'enfant, mais qui dépendent de l'environnement, peut-être familial ou scolaire. Mmh. Dans ces causes exogènes, nous pouvons voir aussi du côté des parents, par exemple. Est-ce que les parents s'acquittent-ils vraiment de leurs devoirs par rapport à la scolarité de leurs enfants? Ces parents qui savent qu'au début de l'année, il a inscrit l'enfant et en sachant qu'il faut prendre aussi en charge sa scolarité, ne paye pas le frais. L'enfant est déjà chassé dès la première année, disons le premier trimestre. Mmh. C'est déjà un problème. Donc cet enfant-là n'a pas été au cours.
Mais il semble qu'on avait même interdit ce système de chasser les enfants parce que les parents n'ont pas payé les minéraux.
Oui, chasser pendant les examens.
Ils n'ont pas payé les frais.
Oui, ben, en fait, il y a aussi d'autres réalités. Sans frais, les écoles aussi ne peuvent pas fonctionner. Ça, il faudra dire la vérité. Mmh. Donc, ces enfants-là qui n'ont pas assisté à certains cours pendant qu'ils étaient chassés ont des problèmes. Parce que même le jour où le parent viendra payer, l'enseignant ne pourra pas reprendre les leçons qui ont été dispensées à son absence. Donc, au niveau des parents, il y a cette difficulté-là. Au niveau des parents, il y a aussi l'encadrement, comme nous disons, au niveau de la famille. Qu'est-ce que le parent a fait lorsque l'enfant rentre de l'école? Comment suit-il l'évolution de son enfant à travers les devoirs à domicile, à travers les contacts avec l'école pour voir comment évolue l'enfant? Si les parents n'arrivent pas à le faire, ça c'est encore un problème.
Il y a même un cahier de communication.
Le cahier de communication, oui. Comment suivre un peu l'évolution, comment l'enfant écrit. Tout ça, ce sont des problèmes que les enfants éprouvent comme difficultés, mais qui peuvent être aussi détectés par le parent afin que ces derniers aillent vers l'école et essayent de réclamer ou essayent de dialoguer avec eux pour trouver la solution. À côté des parents...
Tu as trouvé un répétiteur qui
voilà. Oui, ça c'est dans les cas échéants. Mais d'abord, c'est le contact avec l'école.
Avec l'enseignant.
Avec l'enseignant. Non, d'abord la direction de l'école et puis passer par l'enseignant. Mmh. Bon, maintenant, au niveau de l'école, l'environnement scolaire. Est-ce que cet environnement-là est vitalisant? Est-ce que l'environnement permet à l'élève de pouvoir vivre un bien-être, lui permettant par exemple de bien assimiler ses cours. C'est ainsi que les relations entre l'élève et l'enseignant peuvent aussi être un facteur négatif dans cet échec-là. Il y a aussi le respect du programme. Est-ce que l'enseignant respecte-t-il le programme? Est-ce que les matières qu'il donne sont liées à ces programmes par rapport au niveau de l'enfant? Et à travers même l'enseignant, il y a aussi l'aspect pédagogique, la qualification de l'enseignant. C'est encore un problème. L'enseignant qui est dans sa salle de classe, est-il qualifié réellement pour dispenser ces cours-là? Parce que si l'enseignant n'est pas qualifié, c'est encore un autre problème. La sous-qualification aussi amène au phénomène d'échec scolaire. Il y a un autre facteur aussi en matière d'évaluation. Les questions formulées par l'enseignant lors de ces examens-là, est-ce que ce sont des questions qui ont permis aux enfants de mieux comprendre, de mieux restituer les matières qui ont été enseignées? Si ce sont des questions qui sont mal formulées, c'est encore un autre facteur qui peut faire encore que l'enfant puisse subir ces effets-là néfastes par rapport à ces résultats. Donc, je m'arrête un peu dans un premier temps sur ce qui concerne les facteurs. Donc, j'ai dit, il y a des facteurs endogènes qui sont liés et des facteurs exogènes.
Savi nous appelle de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jati, Daniel Kachama.
Quelle est votre question, Savi?
Et à monsieur Levité.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est la seule. Un enfant qui échoue au premier trimestre avec 5% ou moins, s'il vous plaît, monsieur. Quel conseil peut-on lui prodiguer?
L'enfant a échoué avec 35%.
35 ou moins de ce pourcentage. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil?
Est-ce que vous êtes allé voir son enseignant pour savoir pourquoi l'enfant a mal travaillé?
Oui, je suis parti voir l'enseignant. L'enseignant m'a dit tout évolue bien. L'enfant vient tous les jours au cours, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas.
Et l'enfant est en quelle classe?
L'enfant est à 4e primaire.
Quatrième primaire. Bien, ouais. Merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Georges nous appelle de Manono. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai un témoignage d'un petit qui a échoué avec 45% en cinquième année. Pendant la période, il était souffrant. Il souffrait donc, il sentait le mal de tête. Maintenant, il n'allait pas. Pour le moment, il s'absente régulièrement de l'école parce qu'il a échoué. Mais l'année passée, il occupait la première place. L'année passée, il occupait la première place. Pour le moment, il se sent ridiculisé par ses amis. Il échoue même d'aller à l'école. Alors, monsieur Jody, ma question est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le convaincre de trouver son niveau initial. Alors, pour terminer, monsieur Jody Daniel, il y a des parents qui ont toujours l'habitude, en cas d'un échec de l'enfant, ils lui privent la nourriture même pendant toute une journée. Vous voyez des papas qui disent à ses enfants, comme tu as échoué, aujourd'hui tu ne peux pas manger. Est-ce que cette méthode-là ne peut pas décourager l'enfant pour dire que non, comme les papas font comme ça? Parfois certains disent même à leurs enfants que je ne veux pas te voir ici chez moi pendant toute une journée. Il se casse que l'enfant va même ailleurs, chez le grand-père par exemple. Oui. Vous verrez que l'enfant est découragé. Et parfois, certains parviennent même à échouer avec ce problème-là. Merci beaucoup, M. Joly Daniel. Merci aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Rachel nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
J'ai une question. Avant de la poser, je me suis dit, ok, bon. Blâmer l'enfant s'il n'a pas bien travaillé à la fin de l'année, bon, c'est pas aussi une mauvaise chose. Mais ce qui veut dire, il faut d'abord chercher à savoir les pourquoi. Pourquoi l'enfant n'a pas bien travaillé. Il y a plusieurs raisons. Peut-être l'enfant a donc été refoulé pour le problème d'argent. Et j'aimerais bien dire, je connais, il y a un ami à qui je fréquentais troisième année. Lui, chaque jour, il dormait dans la salle. Il venait toujours dormir, il dormait, il ne suivait pas bien les cours. Et un jour, on lui a demandé la digue et quand lui rentre à midi, il part au ventre. Et il rentre des fois 22h, 23h à la maison. Il n'a même pas le temps de revoir le matin. Et quand il s'est réalimenté pour venir suivre les cours, c'est là qu'il a maintenant sommeil. Il s'est fait fatiguer, tout ça. Alors, là, je me rappelle de madame l'invité. À la fin de telle enfantie, il est arrivé à mal travailler. Est-ce que les parents sont vraiment censés de blâmer l'enfant?
D'accord. Merci, Rachel de Kinshasa, pour ces questions. Monsieur Odon Moulanda, revenons à Georges de Manono qui dit, pas Georges, il y a un autre auditeur qui appelait avant sa vie des Bounia. Il dit, son enfant, qui est en quatrième primaire, a échoué avec 35%. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va tous les jours à l'école, mais l'enfant a très mal travaillé.
Oui, bon, je demande à notre auditeur de ne pas se décourager. Il doit continuer à voir des choses encore dans d'autres cadres. L'enfant va tous les jours à l'école, mais est-ce qu'il surveille les devoirs de l'enfant? Est-ce qu'il voit de temps en temps l'enseignant pour voir l'évolution réelle? Parce que la seule présence n'est pas le seul facteur qui peut faire que l'enfant puisse réussir. Il y a des travails de tous les jours. Il faudra voir les devoirs. Comment l'enfant se comporte par rapport aux matières enseignées? Comment l'enfant se présente par rapport à ce qui lui est donné comme leçon. Je pense que la tâche revient non pas seulement à conseiller l'enfant, évidemment il y a un travail qui doit se faire au niveau de l'enfant, mais le grand travail c'est ces contacts-là que nous avons toujours souhaité, le contact entre la famille et l'école. À ce moment-là, l'enfant se sent un peu responsabilisé parce qu'il sait que s'il ne fait pas très bien son travail, il y a ces contacts-là qui le met au grand jour et les parents sont déjà informés de son comportement. Moi, je pense que ce que je peux conseiller à notre auditeur de pouvoir continuer à être avec l'enseignant, d'être avec l'école de manière régulière et de pouvoir surveiller les devoirs que l'enfant fait. Et des fois, il faut aussi qu'il y ait des petites répétitions, que tout le monde s'engage un peu à ce travail-là, ça va lui donner un peu plus d'espoir pour aller. 35%, on est encore au début. Il y a deux trimestres qui restent encore à faire.
Il y a moyen d'améliorer.
Donc, il y a moyen d'améliorer et de passer des classes aussi.
Georges Desmanon nous dit, il parle d'un jeune homme qui a l'habitude, il est toujours premier de la classe, mais voilà, il avait eu des maux de tête à un certain moment, il n'allait plus au cours, et à la fin du premier trimestre, il a eu 45%, il est en cinquième année, et maintenant, ses amis, il est ridiculisé, ses amis se moquent de lui, et alors il n'a plus envie d'aller à l'école. Alors comment aider un tel enfant à reprendre son niveau?
Oui, moi je pense que ce que nous devons comprendre, que dans la tâche d'éducation, les gens sont plus focalisés dans les termes de savoir, en termes de connaissances. C'est-à-dire l'enseignant qui est dans sa salle de classe vient tout simplement dispenser ses leçons et parfois ne tient pas compte de certains antécédents sur le plan familial ou même sur le plan individuel. Vous savez qu'il y a certains facteurs psycho-médico-sociaux. Les facteurs médico-psychosociaux qui interfèrent aussi sur le rendement scolaire. Cet enfant-là qui n'est pas en bonne santé, comment peut-il étudier comme il se doit?
Il était toujours premier de la classe.
Et pourtant, il était premier de la classe. Mais il a des maux de tête. C'est comme ça que, au niveau même de la loi, c'est là où je tiens à tout prix à saluer et à féliciter les autorités du pays, lorsqu'on doit mettre aussi la dimension de l'encadrement médico-psychosocial dans notre système éducatif qui est renforcé. Il faudrait qu'il y ait quand même des séances, des campagnes même au niveau des écoles où on essaie un peu de dépister certains cas de santé qui sont criants au niveau de nos écoles. Vous savez qu'à l'époque, il y avait même des vaccinations où les enfants étaient soumis même sur le plan de la médecine scolaire obligatoire et sur le plan même déjà de l'encadrement psychopédagogique des élèves. C'est à ce moment-là qu'il faudra renforcer tous les services qui peuvent participer à l'encadrement de l'enfant. Donc, nous ne voyons pas seulement la formation de l'enfant en termes de la dispensation du savoir en termes de connaissances, mais il y a aussi le savoir-être, le savoir se comporter, d'où l'apport des psychologues, l'apport des médecins scolaires, l'apport des assistants sociaux. Ces apports-là sont vraiment indispensables pour un meilleur accompagnement de l'enfant.
Paulin, avant de répondre aux autres, on va accueillir Paulin de Kananga et Fernando de Manono. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081 890 63 94.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Votre enfant a mal travaillé à l'école, hein, comment l'aider à avoir un bon rendement lors du prochain trimestre? Paulin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur Jeudi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, avant de donner ma contribution, je commence par donner d'abord ce point de vue. Vous savez, punir un enfant pour avoir réalisé un mauvais résultat à l'école, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien. C'est bien dans le sens que peut-être les parents étaient informés que l'enfant, chaque fois quand il partait à l'école, il s'aventurait, il ne restait pas au cours, il était chaque fois en train de faire ce qu'on peut appeler l'école buissonnière. Et dans un cas pareil, le parent peut punir cet enfant pour avoir réalisé un mauvais résultat à l'école. Alors, il arrivait que le parent ne sont pas au courant de ce qui s'est passé ou ne connaissent pas les causes qui ont fait que l'enfant puisse réaliser un mauvais résultat, je pense que c'est mauvais, puisque avant de punir l'enfant, on doit commencer d'abord par connaître d'abord les causes qui ont fait que l'enfant puisse réaliser des mauvais résultats.
D'accord, Paulin, maintenant passez rapidement à la question.
Oui, je n'ai pas de questions, sinon ma contribution est que le parent commence par connaître d'abord les causes principales qui ont fait que l'enfant puisse réaliser le mauvais résultat. Des fois, les conditions de scolarité ne sont pas bien assurées. L'enfant part au cours chaque jour, il n'a pas mangé à la maison, il n'a pas de transport. Des fois, la restauration lui pose problème à l'école. Quand il voit les autres manger, lui ne mange pas. Tout ça, ça pose un peu de petits problèmes. Il faut que le parent commence par assurer d'abord de manière correcte la scolarité de leurs enfants. Comme ça, je pense que tout ira.
D'accord, merci Paulin. Fernando de Manono, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jeudi, bonjour à tous les auteurs de la radio Platine.
Quelle est votre question, Fernando?
Bon, moi j'ai des sous-préoccupations parce que, je vais vous donner un exemple qui s'est passé ici chez nous à Manono.
Oui.
Bon, il y avait un parent qui avait son enfant, il pouvait terminer ses études de primaire de l'année passée. Il a fait même toutes ses épreuves et il avait échoué. Maintenant, arrivé cette année, l'enfant, il a commencé à étudier et à la première semestre, il avait échoué. Maintenant, le problème que je voulais poser à l'invité, quelles les procédures que les responsables de cet enfant puissent donner à cet enfant? C'est bébé. Je voulais aussi que les parents de cet enfant qu'ils puissent bien contrôler ses enfants. Par contre, l'enfant passe au vagabondage, il faut seulement prendre les cahiers qu'il puisse lire pour aller étudier.
D'accord, merci Fernando, monsieur Odomulanda. Revenons d'abord à la question de Georges Demanono qui a dit, est-ce qu'il connaît certains parents parce que l'enfant échoue à l'école, on va le priver, il va pas manger. Ce jour-là, il mange pas toute la journée, il va rester affamé. Et il veut savoir si c'est une bonne façon de le corriger, parce qu'il a échoué.
En fait, c'est pas une bonne façon. Vous voyez, vous allez punir l'enfant pendant toute une journée, il peut pas manger. Donc les sanctions ne peuvent pas être tout simplement... c'est lié à une séquestration, l'enfant se met dans des conditions difficiles. Moi, je pense que il revient aux parents. Ils ont le droit quand même de blâmer l'enfant. Le blâme, ça, c'est quand même une cause qui est connue. Il faut blâmer l'enfant et à côté de ce blâme, chercher à un autre moment pour attirer l'enfant vers soi, lui parler et le mettre devant ses responsabilités pour qu'il comprenne que s'il se met vraiment au travail, il va réussir, et s'il réussit, il sera un grand monsieur dans la vie. Donc, nous ne pouvons pas dire que les parents n'ont pas le droit de blâmer.
Ils ont le
droit de blâmer l'enfant, ça c'est tout à fait
correct. Mais pas le priver de nourriture,
là c'est créer encore un autre problème.
Oui.
Alors, Paulin disait tout à l'heure, je pense qu'il est revenu à ce que nous avions parlé de facteurs exogènes. Mais les parents qui ne jouent pas leur rôle comme ils se doivent. Cet enfant-là, vous savez qu'il y a des parents
qui... C'est vrai qu'il y a des parents qui ne suivent pas du tout la scolarité des enfants.
Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pour la plupart, ils sont plus occupés dans la recherche de bien-être ou dans la recherche de moyens de vivre. Vous connaissez dans quelle manière nous vivotons maintenant. Et c'est tout le monde qui est à la recherche de la survie. Donc, à ce moment-là, et la scolarité devient un problème parce que le peu qu'on trouve est plus versé vers le manger. Alors qu'il y a aussi une dimension importante qu'il faut consacrer à la scolarité. Alors, par rapport à ces parents-là qui ne voient pas le travail de l'enfant de manière régulière, qui ne surveillent pas son évolution au niveau de l'école, qui ne voient pas comment l'enfant qui rentre, les parents qui rentrent déjà très tard, les enfants sont déjà au lit, qui n'arrivent pas à suivre la scolarité de leurs enfants, comment ils peuvent vraiment seulement attendre que devant une situation d'échec, s'en prendre et punir l'enfant de manière méchante. Donc, nous sommes tous responsables de la situation, et les parents, et les enfants, et l'environnement scolaire, au niveau même des institutions scolaires, tout le monde doit s'investir pour que chacun voie à quel niveau il peut améliorer son système. Quand nous avons parlé des échecs ici, mais il y a aussi au niveau des responsables scolaires, les gestionnaires, ceux qui affectent, par exemple, les enseignants. Il faut affecter les enseignants qualifiés. Mais on sait voir que dans certains postes de gestion, par exemple à l'intérieur, il y a ceux qui n'ont même pas fait les études pédagogiques, mais qui sont affectés au niveau primaire. C'est déjà un problème. Lorsque l'enseignant essaie de donner une matière contredite par l'enfant, qui est peut-être mieux informé que l'enseignant, c'est déjà un problème. Donc, il y a la sous-qualification aussi que nous devons combattre pour que tout s'arrange et tout se passe correctement.
Bien, Josué, vous êtes à Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Josué?
Oui, je voudrais des petites préoccupations. La première, c'est la suivante. Il y a un problème des écoles. J'ai déjà trouvé que j'ai fait un examen à la maison. Il y a un enfant qui vient de l'école.
Oui. Josué, vous êtes toujours en ligne? Dommage, je n'ai pas là. Revenons à la question de Rachel de Kinshasa qui avait dit, elle se rappelle en classe, elle avait une collègue qui tout le temps dormait, tout simplement parce qu'elle allait vendre, après la sortie, elle allait vendre jusqu'à tard la nuit et rentrer dormir. Bon, elle dormait pas suffisamment parce que le matin il faut se réveiller, aller à l'école, et voilà la conséquence. Et si sûrement peut-être elle avait échoué à cause de cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Rachel?
Oui, moi je pense que Rachel n'a donné qu'une contribution. Je suis d'accord avec elle. Parce que.
C'est aussi une cause d'échec.
Une cause d'échec. Parce que, vous savez, quand l'enfant vient, l'enfant quitte l'école, il vient à la maison, il faudra voir aussi comment va-t-il passer le peu de temps en famille. Et dans ce peu de temps-là, quelle est la part que l'enfant va consacrer aux activités scolaires? Parce qu'il y a des devoirs qui doivent se faire, il y a aussi des études qui doivent se faire au niveau de la maison. Mais lorsqu'on voit qu'au niveau familial, ce que Rachel dit à Kinshasa, mais c'est dans presque tout le pays où des petits-enfants vont vendre, par exemple, le pétrole. Il y a des petits-enfants qui vont vendre des arachides.
Après l'école.
Après l'école.
Ou qui font les toleka,
Kisanganou, dans d'autres filles. Bon, tous ces enfants-là ne peuvent pas vraiment être en mesure de pouvoir réaliser de bons résultats, parce qu'ils sont partagés entre la survie et la vie scolaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'on puisse voir même que dans certains milieux, à des périodes ou à des saisons, que les enfants puissent faire même l'école buissonnière. Vous apprendrez par exemple dans tel coin de Bandundu, les enfants sont allés cueillir des chenilles. Vous allez par exemple dans telle province où les enfants sont dans des mines. Ainsi de suite, ils partagent des activités entre la vie scolaire et la recherche de la survie. C'est tout un problème aussi qui peut faire que cela entraîne des échecs sur le plan scolaire.
Giscard, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, M. Jogui, et à tous les autres de la radio Kabinga, à notre invité.
On vous écoute, Giscard.
Oui, je voulais savoir, pour les enfants, pour les enfants qui n'ont pas eu la chance de réussir à la première semestre et qui ne font même pas l'effort de réussir à la deuxième semestre. Qu'est-ce que les parents peuvent faire par rapport à ça? Merci beaucoup.
Bien, l'enfant a échoué, il ne fournit pas des efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les parents peuvent faire?
Mais quand on dit que l'enfant ne fournit pas des efforts, à quel niveau? Puisque l'enfant a échoué au premier trimestre, puisque nous sommes au niveau primaire. Il a échoué au premier trimestre. Mais est-ce que le parent est allé voir l'enseignant? Parce que ce que nous nous disons, pour que tous les facteurs se mettent ensemble, il faudrait qu'il y ait ce triangle-là, enfant, parent, école. Donc, lorsque ce triangle-là est construit, le parent a la facilité de voir d'abord son enseignant, l'enseignant de cet élève-là qui lui donne des renseignements sur le rendement de son enfant.
Et ses points forts, ses faiblesses.
Ses points forts, ses points forts, ses points faibles. Et de par ses points forts, encourager pour les points faibles, les parents doivent participer pour résoudre la situation. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus important, c'est de voir comment arriver à intégrer la dimension de l'encadrement. Je l'ai dit, l'accompagnement psychopédagogique. Il y a toute une méthode qui peut nous permettre, c'est que à la fin d'un trimestre, que le psychologue, le conseil d'orientation qui est dans cette école-là, essaye de faire une analyse des tableaux statistiques des résultats. Et on va voir quelles sont les matières qui sont plus fortes, quelles sont les matières qui sont faibles pour l'élève, et pourquoi l'enfant a des difficultés dans tel domaine et non pas dans tel autre, et comment l'aider, par exemple, à trouver la solution à ce problème-là. Parce que
faut-il trouver un répétiteur à la maison pour l'aider à remonter?
Bon, ça c'est parmi des solutions,
parmi
mais
les
pas
solutions.
La solution finale, parce que c'est encore une dépense de plus que les parents pourront encore engager. Donc ce qui est important, c'est de renforcer d'abord l'action au niveau de l'école, et l'école avec la famille vont maintenant amener l'enfant à voir comment s'activer, et comment se prendre en charge pour que son action s'efface dans le bon sens et que tout le monde puisse voir les choses dans la même direction.
Et l'enfant, chaque jour, quand il revient à la maison, les parents peuvent vérifier les cahiers avec lui.
Les parents vérifient les cahiers, on voit les devoirs et on sait voir aussi combien de leçons l'enseignant a donné. Parce que après tout, les matières de l'école primaire, même les mamans qui sont à la maison, essaient aussi de voir. Et à ce moment-là, l'enfant qui quitte l'école saura que non, si j'ai fait l'école buissonnière, au retour à la maison, les parents vont m'exiger les notes. Donc, il faudra que je sois à l'école. Et au niveau de l'école, quand l'enseignant est là, il prend en charge l'enfant. L'enfant qui rentre à la maison dit, bon, comment la journée s'était passée? Ah, mais toi, tu as répondu à combien de questions, par exemple? Et aujourd'hui, quand on dit, mais non, toi, tu n'as même pas montré le doigt, donc tu n'as même pas répondu à une question. Vous voyez, l'enfant se dit, bon, cette fois-ci, quand j'irai le matin à l'école, il faut que je fasse tout pour montrer le doigt et que je dois répondre. Et à mon retour à la maison, dit, maman, j'ai répondu à autant de questions. L'enseignant était très content de moi. Donc, ce sont des choses que nous devons essayer de voir au niveau de nos enfants, et de ces contacts-là, l'engagement des parents à payer les frais, l'engagement des parents à suivre la scolarité de leurs enfants, et à doter aussi de petits moyens. Vous savez, les déplacements. Un enfant qui va à l'école affamé, c'est déjà un facteur. L'enfant qui a des problèmes de santé, comme nous l'avons dit, c'est un facteur. Mais il y a aussi certains parents qui cherchent même à inscrire les enfants à des écoles très éloignées. Mais l'enfant quitte la maison pour atteindre cette école-là. Soit il a des problèmes de transport, soit il fait le pied, mais arriver là-bas très fatigué, c'est encore un autre facteur qui peut faire que quand la distance est trop grande aussi, on ne sait pas suivre normalement l'évolution de l'enfant.
Bien, Rodon Moulanda, expert en éducation, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces sujets, comment aider l'enfant qui a eu des mauvaises cotes à relever, à améliorer lors du prochain trimestre. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.